Rendez-vous de midi. Alors chaque année, en janvier, début d'année donc, nous recevons les présidents et présidentes de communautés et de communes qui soutiennent NOV. Et nous allons démarrer cette série d'émissions donc avec les rendez-vous de midi chaque vendredi ce mois de janvier avec Fabien Gabory de Lille de Noirmoutier.
Et oui, chaque année en janvier, nous recevons les présidents et présidentes de communautés de communes soutien de NOV. Nous démarrons aujourd'hui avec Fabien Gabory de Lille de Noirmoutier. Bonjour, très belle année, très bonne année, monsieur le président.
Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et tous les auditeurs de NOV Ma Radio, et à qui je souhaite une belle et heureuse année, bien évidemment. Et puis je pense à nos territoires du Nord-Ouest Vendée et à mon île en particulier, à qui je souhaite une année apaisée et puis qui puisse conjuguer durabilité et prospérité.
Merci à vous, très belle année. On va en reparler de tous ces vœux, de tous ces souhaits. Cette année qui démarre, justement, on le rappelle, sans cérémonie de vœux, vous concernant à la collectivité, pour vous, choix budgétaire oblige. Vous avez expliqué cette volonté de favoriser, je vous cite, la vie permanente pour votre île.
Oui, alors les cérémonies des vœux sont une tradition. On avait fait une cérémonie l'année dernière qui avait eu un réel succès, puisqu'on l'avait fait en tout début d'année, ce qui avait permis, puisque j'aime beaucoup faire communauté, et la communauté insulaire, elle doit être soudée, et donc il y avait aussi les résidences secondaires qui étaient là encore pour les vacances, ce qui fait que l'attractivité a fait qu'on était quand même 550, et que généralement, 550, ça génère un peu de frais, et on s'en est rendu compte. Donc voilà, je me suis dit qu'en cette période un peu tendue, d'élaboration budgétaire sans visibilité, c'est surtout ça, avec des désengagements déjà annoncés, notamment de la région, mais pas que, il était plutôt le moment de changer le paradigme et d'aller devant mes concitoyens justement pour expliquer qu'est-ce que une élaboration budgétaire, qu'est-ce que le budget d'une collectivité, aussi expliquer, parce que je le dis, on a un héritage où l'investissement structurel du territoire a été un peu négligé et qu'on reprend quand même un peu tout de A à Z, notamment sur la défense contre la mer, on a des chantiers et des murs financiers qui nous attendent. Donc il était de ma responsabilité de dire on va changer la méthode, je veux aller encore plus devant les citoyens, mais à moindre coût. Donc je me déplacerai personnellement et avec mes vice-présidents et mes conseillers référents devant les forces économiques pendant le premier trimestre. Et puis on va faire des permanences, un peu comme font les maires dans les communes, où les citoyens, permanents, saisonniers, visiteurs, pourront venir échanger avec nous sur le projet de territoire, sur son élaboration et sa co-construction. Et je pense que c'est important.
Voilà, pas de cérémonie, mais des rencontres au cours de ce premier trimestre. Qu'est-ce que vous retenez globalement, avant de parler de 2025, de l'année 2024, à l'échelle évidemment de votre territoire ?
L'année 2024, elle a été, nous justement, la prise de conscience après les tempêtes Céline et Ciaran, de la vulnérabilité qu'on connaissait déjà de notre territoire. Et puis on a eu ce fameux épisode Kirk aussi, l'inondation par ruissellement. Donc une grosse prise de conscience, même si on l'avait déjà, d'avancer et puis de préparer l'avenir pour pouvoir le subir. Et donc c'est là que l'investissement et que chaque euro doit compter, nous oblige à anticiper tout ce qui pourra se passer pour protéger notre territoire, sa population et continuer à avoir une soutenabilité pour notre territoire. Donc il était important de se concentrer sur l'essentiel, et c'est ce que nous a appris 2024. Se reconcentrer sur l'essentiel et anticiper, préparer l'avenir pour ne pas avoir à le subir.
Avec des beaux chantiers, on va en parler. Vous en parlez à demi-mot, l'annonce des coupes budgétaires de la région des Pays de la Loire. Elle impacte énormément d'actions sur le territoire. Vous concernant, pour la collectivité toujours, est-ce que c'est mesurable? Est-ce que vous êtes épargné ou pas du tout?
Alors, j'ai une annonce hier où on est un peu plus épargné que les autres, étant donné que la région a pris en considération le principe d'insularité. Et donc Lille-Dieu et Noirmoutier, sur le contrat de région, aura le même volume financier que précédemment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, après, c'est sur le désengagement de la vie associative. Il y a quand même quelques coupes budgétaires. Donc la communauté de communes sera là aussi. C'est aussi pour ça que je préférais qu'une cérémonie de vœux qui coûte aux alentours de 20 à 30 000 euros, selon ce que j'ai dit tout à l'heure, selon le calibrage, soit plutôt axée sur le soutien aux associations cette année.
Alors on va parler des projets 2025. On a retenu quelques-uns. Priorité de Lille, année après année, c'est quand même le logement. On en parle tous les ans dans cette émission, c'est un vrai enjeu. La communauté de communes s'engage déjà sur les logements à l'année, avec plusieurs acquisitions et des travaux annoncés cette année.
Oui, s'il y a un slogan politique qui me concerne, c'est le choix de la vie permanente. Donc ça veut dire d'avoir des gens à l'année et d'avoir des entreprises qui puissent aller dans ce vivier, avoir des salariés pour faire vivre l'économie de Lille. Donc le logement est une priorité. On a une pression foncière qui est exacerbée avec la volonté de venir tous profiter de Lille, et notamment la résidence secondaire qui a un taux de 70% sur le territoire. Et donc l'idée de choix de la vie permanente, c'est de rééquilibrer Et donc, le PLUi, toutes ces actions qui vont être menées vont essayer sur les 10 ans, essayer de revenir à un taux de 60-40 ou 65-35 si on y arrive, et qui sera important parce que ça va maintenir l'économie au niveau où elle est et surtout ne plus la dégrader. Donc, sur le logement, on est proactif. On est une des premières communautés de communes à être devenue bailleur. Donc, ça a intéressé beaucoup au niveau national. On a eu pas mal de politiques d'envergure nationale qui sont revenues vers nous pour savoir comment on avait mis ça en place. Bon, simplement dit que c'était plutôt facile. Si vous pragmatisez, on avait besoin de logements, donc on les achète. On les rénove. On règle la thermicité et les logements qu'on achète sont justement soit des verrues architecturales qu'il faut régler patrimonialement ou alors des problèmes de thermicité, des logements dont les résidences secondaires ne veulent même pas. Donc c'était un peu ça l'idée. Et donc on s'est créé un parc qu'on rénove cette année. Bon an, mal an, on va arriver à avoir une quarantaine de logements qui seront livrés courant 2025 et puis 2026. Donc on va redonner un peu de souplesse au marché. Je pense qu'il va se détendre un peu sur la location à l'année et c'est important. Et puis après, on va construire aussi du neuf. Et donc là, on va essayer de se faire aider aussi par les partenaires institutionnels que sont la Banque des Territoires, l'EPF et autres, sur des terrains en zone blanche que nous avons acquis pour en faire de la construction en PSLA, qui là aussi et permet l'accession à la propriété pour des actifs en passant par une case location et avec une constitution d'épargne entre les deux. Donc voilà. Donc on essaye tout et c'est important pour le maintien à niveau de notre économie. On ne parle plus de développement économique sur notre territoire, désormais on essaye de maintenir à flot. Donc, vous voyez, il y a quand même des problématiques sur le côté insulaire et le côté logement qui a une corrélation avec l'économie.
Et en termes de logement saisonnier, c'est un thème qui vous mobilise aussi.
Alors, sur les logements saisonniers, on avait été un petit peu inventif. J'ai vu que Chalangois, mon homologue Alexandre nous imitait, donc je plaisante, hein, c'est un petit joke entre nous, mais on a développé un parc de tiny house. Donc, dans des campings municipaux, Noirmoutier et puis La Guérinière. Et La Guérinière, c'est camping municipal et désormais aussi sur une aire de camping-car. C'est-à-dire qu'on enlève les places de camping-car pour remettre du logement pour les saisonniers. Donc là aussi, c'est le choix de la vie permanente contre, entre guillemets, un tourisme qui a une empreinte environnementale un peu supérieure en plus avec le camping-car. Donc on est ravis, ça marche très très bien. Elles fonctionnent à l'année, donc elles servent à l'économie touristique et elles servent à l'économie primaire, parce qu'on a l'hiver les ostriculteurs et ensuite les producteurs de pommes de terre. Donc c'est vraiment un succès et donc on continue à monter en puissance cette année. On va essayer d'en installer à Noirmoutier au camping de la Pointe, qui est un autre camping sur l'Herbelière et qui pourra servir pour des saisonniers plutôt sur le monde maritime, de la criée, de la pêche et alentours. Donc un succès, oui, pour ça. Et puis des petites tiny houses qui sont face mer, donc en plus on a expérience, on travaille, mais on est à 20 mètres de la plage, donc c'est quand même pas mal.
C'est plutôt sympa, vous en avez combien aujourd'hui?
Alors on en est rendu à 7. Et donc on va continuer à monter en puissance pour arriver, je pense, à un parc d'une vingtaine serait pas mal, et ça donne quand même pas mal de souplesse. Ouais.
Alors, autre enjeu qui n'est pas prêt d'être détrôné dans le podium des priorités, c'est la défense face à la mer. Et vous l'avez dit, en 2024, on a vu quand même encore beaucoup de fragilité sur certains secteurs.
Ben oui, on a eu les tempêtes Céline et qui avait quand même impacté le trait de côte et dégradé certains ouvrages. Donc on a été dans les travaux d'urgence cette année, entre guillemets, et puis dans les travaux d'entretien récurrents, parce que la meilleure prévention, c'est l'entretien du bâti, des ouvrages existants, ce qui avait été un peu délaissé. Donc cette année, on a mis l'accent avec des personnels intercommunaux en permanence sur l'estran. Et aussi, je tiens à saluer mes collègues des communes qui ont joué le jeu en mettant aussi des services techniques à disposition. Donc on a fait énormément de rejointage sur des ouvrages existants, beaucoup de linéaires, ce qui permet de protéger, de continuer dans le temps à protéger ces ouvrages. Et puis les travaux d'urgence. On n'a jamais mis autant, entre guillemets, en travaux d'urgence en termes de volume financier, parce qu'on a mis 1,3 million euros cette année, avec des enrochements pour sécuriser certains secteurs, et puis des reprises des plis maçonnés et plein de choses comme ça qui ont été faites dans l'année. Un gros, gros travail de notre service maire cette année. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'a pas été sur l'estran. C'est vraiment un sujet récurrent. Et puis, c'est un sujet de protection des populations et des biens. Et donc, c'est notre responsabilité et nous allons continuer à l'assumer pleinement.
Et cette année, 2025, vous allez avancer sérieusement sur ce fameux projet de création de 3 portes anti-submersion à l'entrée de 3 étiers.
Oui, ça va régler les problèmes de surcote. On a toujours eu cet épisode Zinkia, et donc, ça avait, depuis que Zinkia, on avait ce diagnostic qu'il fallait venir obturer les étiers, parce que les digues étant plus basses dans le cœur de l'île, on aurait pu être inondé par le cœur de l'île. Donc là, on est, à la fin de ce projet un peu pharaonique, le plus gros projet qu'avait porté la communauté de communes, et qui est un projet d'envergure européenne. Ça sera des grands groupes de génie civil qui répondront. Donc on va venir, mettre des portes secteurs, un peu comme à Venise. Elles sont dans le radier, elles viennent obturer ces entrées d'étiers. Et donc là, on est dans le dépôt de dossier, ça y est, ça a été déposé. Donc on a un an d'instruction réglementaire, parce que c'est très très encadré au niveau environnement, et tant mieux, hein, parce qu'on est sur de l'eau, la qualité de l'eau, la protection des usagers de l'eau, donc que sont les conchyliculteurs, l'aquaculture et les sauniers. Donc on est très vigilant sur tout ce qu'on met en place. Donc un an d'instruction. Et puis, on va démarrer ces travaux début 2026. On espère aussi que ces travaux d'envergure qui viennent protéger l'ensemble du centre de Noirmoutier, mais aussi ce que j'ai dit, l'économie et le cœur de l'île, sera pris en compte par l'État aussi dans la protection globale et dans les fameux règlements liés à ça. Parce que, bien évidemment, si c'est des travaux qui vont, en termes de volume financier, avoisiner les 30 millions d'euros tout compris, on espère que derrière, il y aura un peu de souplesse pour maintenir l'économie et pas trop de contraintes par rapport à ça ensuite. Voilà.
Donc, on en reparle en début 2026, si je comprends bien.
Oui, ça va être un sujet d'actualité toute l'année 2025 et 2026, je pense, oui.
La défense de l'environnement, la culture, l'énergie, la transition oblige. On en parle avec vous dans quelques minutes après une petite pause musicale, Fabien Gabory.
Et c'est juste après le tout dernier Santa sur Neuve, La Différence.
J'ai le vertige de nous. On n'a pas cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère ton trop au pas assez. Ouais. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse. Un peu de flou, un peu de mou. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère ton trop au pas assez. Tu feras la différence.
tout dernier Santa, c'est déjà sur Nov. C'est à l'instant La Différence. La suite des rendez-vous de midi avec Emmanuel aujourd'hui, qui reçoit, l'émission a été enregistrée, le président de la communauté de communes de Noirmoutier de Lille. De Noirmoutier, c'est Fabien Gabory sur Nov et c'est jusqu'à 13h.
Avec nous, Fabien Gabory, le président de la communauté de communes de Lille de Noirmoutier. En ce mois de janvier, on réserve souvent un temps de bilan et de perspective, surtout hein, sur l'année à venir. La Comcom, compétente évidemment sur plein de domaines, sont beaucoup de dossiers. Petite parenthèse sur un sujet fort qui vous mobilise, et vous n'êtes pas seul, hein, celui de ce péage, de cette éco-participation pour franchir le pont Noirmoutier. Le département a dit non en 2024, mais vous n'avez pas renoncé avec quelques alliés, d'autres îles d'ailleurs. Alors, est-ce que ce sujet va être d'actualité en 2025?
Comme vous le savez, c'est un sujet qui est là depuis 1995, un sujet qui est inscrit dans le Code de l'environnement, c'est-à-dire que le Code de l'environnement prévoit pour les îles reliées par un pont la mise en place qu'on appelait une écotaxe. J'ai inventé ce que mes homologues de Réoléron disent, c'est moi qui suis à l'origine de ce nom éco-participation. Oui, c'est vrai, je trouve que ça sonne mieux parce que c'est exactement ça. Il ne faut pas négliger qu'il y a une empreinte environnementale de son comportement touristique et son comportement de consommation d'un territoire. C'est exactement ça, les îles sont des territoires plus fragiles que les autres. On ne peut pas revenir là-dessus, c'est aussi le principe d'insularité sur les îles qui ne sont pas reliées par un pont. Donc c'est un sujet, comme je le dis souvent, c'est le vent de l'histoire. De parler de dégradation des budgets nationaux. Je tiens à dire d'ailleurs que les collectivités, on est garant, nous, de budgets équilibrés. Donc on ne vient pas augmenter ce déficit de l'État. Mais par contre, on a besoin d'autonomie financière, comme j'ai dit tout à l'heure, pour structurer nos territoires. Et puis un territoire comme le nôtre, il faut bien comprendre que la fiscalité, elle repose sur 10 000 habitants permanents et que l'été, on est 120 000. Donc il y a un moment, quand j'évoquais tout à l'heure, chaque euro doit être investi, mais ça va être beaucoup d'euros qu'il faut sur les murs financiers qu'on a de défense contre la mer, d'adaptation, et aussi de stratégie touristique pour renforcer l'expérience touristique. Donc oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça tient à cœur des autres présidents des îles à pont, parce que du coup, on parle tous de la même voix, et ça, c'est quand même nouveau. Et donc, je suis ravi qu'il m'ait suivi dans cette réunion des trois îles. Ça crée beaucoup d'émulation. Ça nous permet aussi d'anticiper plein de problématiques qui sont les nôtres, hein, les problématiques insulaires du logement et autres, de travailler ensemble. Et j'espère que ça va aussi influencer la façon de voir les îles. Et c'est exactement ça. Ce travail qu'on a mis en commun, il a permis déjà une chose, c'est dans ce code de l'environnement, il y a eu un amendement possible, et l'île de Ré va bénéficier d'un fléchage du péage qui a été très encadré jusqu'à maintenant et qui va lui permettre aussi de pouvoir investir sur le vélo du quotidien. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a des excédents sur le pont de l'Île-de-Ré. C'est-à-dire que, voilà, c'est entre guillemets des problèmes de riches. Ils avaient tellement d'argent de côté que là, ils ont 120 millions d'euros qui va être maintenant débloqué pour aller sur le vélo du quotidien. C'était déjà la Mecque du vélo. Ça va devenir un paradis. Donc là, c'est une expérience touristique renforcée aussi. Donc comment on peut dire à notre territoire, non, vous ne pouvez pas accéder à cette manne-là, entre guillemets. Mais c'est pas l'aveuglement de l'argent, encore une fois, je le dis bien. C'est un changement de paradigme. Changement de consommation du territoire, une expérience touristique renforcée par la mise en place de mobilités alternatives, de protections rapprochées, voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est le fond de l'histoire, et que peu importe la date, mais Noirmoutier aura son éco-participation, ainsi qu'ils de l'Hérault.
Comment vous allez remettre le sujet sur la table?
On travaille beaucoup avec les législateurs et les parlementaires. Donc on a été reçus au Sénat, on va régulièrement à l'Assemblée, et je pense que notre voix commence à être bien entendue. Mais après, c'est pas pour mettre en défaut le département, et au contraire, c'est vraiment pour travailler avec eux, parce que nous, au cœur du sujet, on a aussi le GOA, et je pense que le GOA doit avoir aussi son éco-participation. Et c'est un peu ce que beaucoup de sénateurs nous disent. C'est aussi un ouvrage d'art relié par la mer, donc dans le code de l'environnement, juridiquement, ça tient la route. Et que sur ce bois, il faut aussi qu'on règle les problèmes, notamment de stationnement sur l'Estran, je le répète. Je trouve que c'est une hérésie environnementale. Je le dis, je le répète. Si on voyait cette image de voitures garées autour du Mont-Saint-Michel, on réagirait. Et là, j'ai l'impression que personne ne réagit. Voilà, lors des grandes marées, quand on traverse ce bois, moi, ça me fait assez mal à chaque fois. Voilà.
On en parlait avant la pause de cette défense de l'environnement, évidemment cruciale. Un mot sur l'expérimentation lancée sur le secteur de Luzéronde, avec des partenaires de choix et habituels, hein, autour donc de cette expérimentation qui se déploie par ailleurs sur plusieurs secteurs en France et en Europe.
Ah oui, c'est un projet d'envergure européenne, donc on est lauréat, on est ravis qu'on ait choisi le territoire de Noirmoutier au niveau européen pour cette expérimentation. Donc ça, c'est vraiment lié aussi à une nouvelle façon de fonctionner sur la gestion douce du littoral. Donc on va artificialiser partout, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a des endroits où il y a des biens protégés, oui. Là, on a un secteur dunaire avec un marais derrière naturel. Donc l'idée, c'est de conforter naturellement la dune. Et donc là, on va changer les habitudes et le paradigme, et ça, je trouve ça important, c'est qu'on va changer la mobilité, on va la déplacer, on va redonner à la dune son esprit originel, et surtout, on va lui permettre de se conforter par l'arrière, en changeant de mobilité. Donc on va un peu la raser aussi, ONF, le Conservatoire du Littoral, le CEREMA, tous les acteurs de la transition nationale et européenne. Donc un très très beau projet, avec une zone de protection rapprochée qui va être importante. On a sur ce secteur-là une espèce protégée qui est le crapaud pélobade, donc on va lui rendre aussi son territoire originel. Et donc, il y aura peut-être une expérience touristique à faire autour de ça, découvrir aussi ce crapaud, parce qu'on le découvre de nuit. Donc, vous voyez, c'est vraiment un projet très, très environnemental, mais qui peut aussi aller sur du tourisme durable, et puis surtout qui va permettre à la dune de se conforter, et donc de protéger l'île naturellement. Voilà, donc un très, très beau projet. Je suis ravi d'être lauréat et de pouvoir participer à cette aventure.
Alors, toutes les infos sont sur le site de la Comcom. On l'a vu, la défense de l'environnement de l'île mobilise. Ça exige des fonds, évidemment, idem quant au coût de l'énergie. La transition énergétique, vous y pensez évidemment, avec ce projet dont on a parlé aussi dans de précédentes émissions, de panneaux photovoltaïques flottants, si je ne me trompe pas. L'appel d'offres est lancé d'ailleurs en ce début d'année.
Oui, alors en fait, on est, je le dis toujours, c'est très pompeux, mais j'adore de mettre le territoire à l'avant de cette façon-là, on est leader européen dans les eaux de réutilisation. C'est-à-dire que nos eaux usées sont retraitées et elles servent principalement à l'alimentation en eau de l'agriculture, ce qui permet de maintenir le volume de production de pommes de terre à 10 000 tonnes grâce à ça. Et donc on a des lagunes de stockage, où dans ces lagunes de stockage, l'eau est déjà traitée, et donc c'est simplement du stockage. Donc nous a paru l'idée importante de pouvoir faire de l'énergie renouvelable sur ce secteur, et donc c'est ce fameux parc de panneaux photovoltaïques flottants qui sera une première. Il y en a quelques-uns dans le sud de la France, mais c'est encore rare, il y en a un peu plus dans les pays germaniques. Et donc l'appel d'offres est lancé. J'ai constaté avant de venir, parce que je savais que j'allais être certainement interrogé sur ce dossier, que 40 dossiers ont été retirés par des entreprises. Donc écoutez, je suis plutôt confiant sur le fait qu'on va avoir pas mal d'entreprises qui vont se mobiliser pour porter ce beau projet, qui, selon nos estimations et les premières investigations techniques, permettra sur ce parc-là d'avoir de la production électrique entre 8 000 et 10 000 habitants, ce qui veut dire qu'on a pratiquement l'autonomie énergétique électrique pour notre population permanente. Et donc, après, on fera un deuxième parc photovoltaïque flottant sur notre deuxième station d'épuration, une fois qu'on aura fait l'agrandissement des lagunes de stockage à Barbâtre. Donc, avec ces deux stations-là, on pourra dire qu'on est pratiquement un territoire autonome en énergie électrique, donc ce qui est quand même très important. Donc, je suis ravi aussi que ça se mette en place.
C'est l'objectif, on comprend bien. Alors, sans transition, sans mauvais jeu de mots, hein, vous avez un beau projet qui avance, qui concerne le moulin de la Plaine.
Oui, on a eu la chance de pouvoir acquérir le moulin de la Plaine, qui est à l'entrée de l'île, hein, à côté de l'office du tourisme, quand on rentre à Barbâtre, très visible, donc il va devenir un véritable emblème. On a un vrai projet, mais c'est un vrai projet économique et agricole, c'est-à-dire de réintroduire, de le remettre en route, bien évidemment, mais surtout de réintroduire une filière meunière, donc de produire notre farine avec les céréales qui sont produites sur notre territoire, céréales produites à côté du moulin, dans la Plaine de Barbâtre, en bio, et depuis des années. Donc voilà, super projet, qui là aussi va allier les circuits courts, le plan alimentaire territorial, une production agricole renforcée, donc voilà, un soutien à la filière agricole avec des produits de qualité sains et qui vont rentrer dans le circuit court d'Ormoutrin. Et bon, on sait déjà que tous les boulangers sont enthousiastes, des chefs tels Alexandre Couillon demandent des farines particulières, on va essayer de répondre à toutes ces demandes-là. Donc un vrai, vrai projet de territoire emblématique avec le moulin qui était quand même un des emblèmes de l'Ormoutier. Et donc ce moulin à l'entrée de l'île avec ses ailes, et quand il va tourner, je pense qu'on sera tous fiers.
C'est culture dans tous les sens du terme. Juste avant de terminer, j'ai un petit mot. J'ai pensé en vous recevant à l'annonce récente, hein, de Yannick Moreau, annonçant qu'il allait quitter la vie publique, en tout cas locale, en fin d'année. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, qui êtes aussi président d'une communauté de communes et donc très, très sollicité dans votre travail dans cette collectivité ?
Écoutez, là, d'abord, je travaille avec Yannick Moreau, je suis un de ses vice-présidents à l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral. On est assez triste parce que on avait créé des liens et qu'on travaillait bien sur les thématiques littorales. Bon, après, je prends acte de sa décision, qui est courageuse, hein. Après une longue carrière, ainsi de suite, on voit plutôt des élus s'accrocher à leur fauteuil, et que lui l'avait dit depuis très longtemps, et ça j'admire, qu'il ne serait pas un vieil élu qui s'accroche à son fauteuil. Donc il est dans la transmission, ça c'est important. Beaucoup d'élus n'anticipent pas la transmission, et je pense que ça va être dans nos valeurs insulaires, il y a ça aussi. Bon, moi j'ai un parcours un peu inverse, c'est-à-dire que je suis venu en politique plus tard, avec une vie d'entrepreneur privé avant, que je continue, mais ce que je reconnais, c'est que c'est de plus en plus difficile de lier les deux, que c'est de plus en plus chronophage nos missions d'élus de proximité, et puis que on attend de plus en plus cet élu de proximité et de la collectivité. Donc ça peut être des fois un peu décourageant, je le conçois. En attendant, c'est l'heure des choix. Il y a des élections 2026. Je pense qu'aussi, il anticipe et qu'il donne la transmission. Et ce que je disais, c'est important. Il faut qu'il puisse, au sein de son équipe, transmettre. Donc, je pense que c'est un peu ça le but. Et puis, nous, c'est pareil. Il va falloir qu'on commence à anticiper ce qui va se passer en 2026. Et donc, voilà, on va être à l'heure des choix. Donc, la décision d'Yves Moreau, elle peut peser sur beaucoup de choix d'élus. C'est vrai que ça interpelle. Et que ça nous permet de nous retourner un peu sur notre parcours et puis de voir sur quoi on veut continuer. Hein, voilà. Donc, mais par contre, c'est vrai que je tiens à le préciser, et là je rends hommage à tous mes collègues élus, c'est un vrai engagement. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est du sacrifice quotidien. Et donc, il faut être motivé. Et on a besoin d'élus de proximité motivés. Donc, il faut que les citoyens soient aussi là pour co-construire avec nous. C'est important, il faut qu'on puisse emmener tout le monde. Donc, il faut que les citoyens regardent bien et que reconsidèrent bien ce qu'est le rôle d'élu et bien se l'approprier. Et participer à la vie citoyenne, c'est le seul axe qui permettra de faire avancer nos territoires.
Ce sera un peu le mot de la fin parce qu'on arrive à 13h. Fabien Gabory, je vous souhaite une très belle année à vous et à tous les habitants de l'île, évidemment.
Merci. Puis de nouveau, je vous réitère tous mes voeux de bonheur, de prospérité. Voilà. On continuera aussi, c'est important de le dire. Neuve est un peu notre radio de référence sur le Nord-Ouest Vendée. Je tiens à saluer l'action que nous menons aussi avec les présidents de PCI, de Chalangois, d'Océan-Marais-de-Mont et de l'Île-Dieu, réunis dans un groupe de travail là aussi. Et avec qui les projets territoriaux avancent, et là aussi dans la concorde, et donc ça nous permet aussi d'être soudés. Il y a une émulation qui se fait quand on travaille ensemble, donc ça c'est important aussi, de pouvoir rayonner et de faire valoir toutes nos idées et toutes nos innovations et nos projets sur l'ensemble du Nord-Ouest Vendée. Et donc je remercie nos VFM aussi de relayer chaque année ces projets-là et cette façon de fonctionner. Merci beaucoup.
Voilà, et grâce à vous évidemment, à l'île de Noirmoutier, soutien de Neuve, on va retrouver justement vos homologues de Chalangois et de Saint-Marais-de-Mont. Mercredi prochain, ce sera Alexandre Ruffet et Véronique Lenné, lundi 20 janvier. Très belle fin de semaine à vous.
Merci Emmanuel, merci Fabien Gabory. L'émission podcast, allez-y, n'hésitez pas à écouter tout au long de votre week-end.